Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Bonsoir à tous et merci pour votre constante fidélité à ce programme. Le Club de Tamani s'intéresse ce soir à la littérature. Oui, la culture au-delà de l'aspect festif et distractif, elle est aussi matière à réflexion. L'œuvre que nous allons explorer ensemble est le tout dernier du professeur Idrissa Seyoua Traoré. Il s'agit du livre intitulé « Enjeux du pilotage pédagogique au Mali, des mots à penser ». Nous allons passer en revue cet ouvrage de près de 200 pages qui fait un diagnostic sans complaisance. L'état des lieux de l'éducation au Mali. Il a aussi écrit « École et décentralisation au Mali ». Professeur Traoré est également co-auteur de plus d'une quarantaine d'articles scientifiques et de livres entre crise scolaire, défis de gouvernance et réalité du terrain. Comment redonner au système éducatif malien ses lettres de noblesse. Professeur Idrissa Seyoua Traoré nous les dira, il est un observateur et un analyste rigoureux du système éducatif malien. Professeur titulaire des universités du Mali et également de celle du CAMES depuis juillet 2025. Il a été vice-recteur et recteur de l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako. Le Club de Tamani, c'est aussi de la bonne musique, des rubriques. À la présentation, je suis Lala Diarra Touré, ma binôme du jour, Adama Amadou Haïdara. À la technique, nous avons Mamadou Ouattara. Encore une fois de plus, merci de nous suivre. Adama, bonsoir.
Bonsoir, Lala.
Comment vas-tu?
Moi, je vais bien.
Et ce sourire et cette beauté?
C'est le week-end qui s'avance.
Ah, Adama aime le week-end. C'est bien, ça. Tu aimes lire, Adama?
Oui, j'aime lire.
N'est-ce pas?
Oui.
Ah, c'est indispensable, surtout dans le métier que nous faisons.
Exactement.
C'est vrai que souvent, le temps, il est...
On n'a pas assez de temps, mais...
Oui, mais il faut avoir une petite fenêtre.
C'est ça.
Pour se cultiver et enrichir, j'allais dire, notre vocabulaire. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer avec de la bonne musique. Quand je te dis le Safazi, le prêcheur des rappeurs, ça te fait penser à qui?
À Milmo N. Sahel, naturellement, Lala. Et on va écouter son titre, intro.
Ni de me bras tiara trop, il sait qu'à bête faux. N'en a la sonna, am sait qu'à bête faux. Je remercie tous qui m'ont aidé. Mille mots en Sahel, avant de croire. MC ou ka classi ou datugu, bi kalante. Anganyoron soro boaka boulongo no amparante. Oshiga na sira, bintek ma texika. Dena zero di morama, wantek ma rapuka. Demisene a te moro tje, moro debi yere tje. Angan hakli to an yere la, angan anfa tje tje. Nenye be fendo na tola, eske au nyebo la. Fendo be kena dungo do, eske obi kaula. Anga so aniko, anga so anido. Mesira dondola, anga so aninyeo. Ni yagare ka bashi. Ma fille, Congo be Sirimambi, Sirimamana bia kagele michukami, Boroma bifengono, Fouima bim borokono, Samiajima la boli ke fouite jinekono, Doni men kunjini barate, ou kote, Kojiemi sero doma wali den de me barate na ke, Kanita na follow fek.
Milmo N. Sahel, dans intro, Willy Valley à l'instant, un texte assez inspiré, chargé d'essence, j'ai envie de dire, Adama. Et à présent, accueillons Imerana Kilumega pour la revue de la presse en français. Akilou, bonsoir.
Bonsoir, Lala Diarra Touré.
Vers la valorisation de production locale, c'est l'un des principaux titres développés par les journaux cette semaine, Imerana.
En effet, Lala Diarra Touré, dans une correspondance adressée vendredi dernier 13 février aux différents collègues, le ministre de l'économie et de finances, Alousseïni Sanou, a réclamé l'orientation de la commande publique vers la production locale. Chaque département doit donc se réserver un montant de 100 millions de francs CFA au titre de l'exercice budgétaire 2026 pour le financement des acquisitions. Ainsi titre le Républicain, le département ministériel est invité à réserver 100 millions de francs CFA dans leur budget pour la consommation de produits locaux. Les marchés d'équipements de cabinet ministériel en meubles, tableaux ou autres tissus décoratifs seront désormais attribués aux entreprises maliennes. Aussi, il s'agit de prioriser les productions locales dans l'approvisionnement en produits alimentaires comme le thé, les jus de fruits, les boissons naturelles, idem pour l'approvisionnement en produits sanitaires. Là aussi, les articles de fabrication locale doivent être priorisés, peut-on lire dans le journal. La commande publique à l'ère du consommé malien, écrit le quotidien Infomatin. Selon le journal, l'initiative s'inscrit dans une dynamique des assises nationales de la Refondation qui préconise une politique budgétaire d'excellence et un soutien affirmé aux PME de droit malien. Sur le fond, la mesure traduit une volonté de souveraineté économique et constitue un signal fort dans le contexte de tensions sur les importations et de recherche d'autonomie productive, souligne le journal. Plusieurs milliards de francs CFA du budget 2026 à injecter dans les produits locaux made in Mali, rapporte de son côté l'Indépendant, un autre quotidien privé. Dans les colonnes du journal, le ministre Alousseini Sanou explique que la mesure vise à promouvoir le consommer malien ou consommer localement, conformément à la vision des plus hautes autorités. Et l'Indépendant de rappeler que la promotion du Made in Mali a été maintes fois exprimée par les différentes autorités, mais sa concrétisation est toujours en deçà des attentes des opérateurs locaux. Avec cette initiative, le gouvernement entend stimuler l'économie nationale, soutenir les entreprises locales et renforcer la souveraineté économique du pays à travers l'utilisation accrue des ressources et du savoir-faire malien, écrit de son côté le site d'information MaliWeb. Voilà, c'est tout pour ce soir, Lala Yahara Touré.
Nous enchaînons avec la rubrique Éducation aux médias.
Les coulisses de l'info.
Et c'est avec plaisir que nous te retrouvons cette semaine. Bonsoir Fatia Tara. Alors, de quoi allons-nous parler dans la rubrique Éducation aux médias?
Bonsoir Lala. Dans notre rubrique Éducation aux médias, nous allons aborder les sujets liés au traitement des questions sécuritaires par les médias. Quelles techniques les journalistes doivent-ils utiliser dans un milieu en proie à l'insécurité? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir dans le traitement de l'information sans pourtant tomber dans l'autocensure? Le directeur de la radio Diamana de Tombouctou, Alousseini El Hadj, nous donne son avis sur ce sujet.
Les journalistes qui traitent l'information, les journalistes surtout qui sont en zone de conflit, ne peuvent pas traiter l'information de la même façon que d'autres journalistes. Le fait même d'être dans une zone de conflit suppose qu'on doit adopter certaines règles pour sa propre protection. D'abord, le premier aspect, ça c'est pour tout le monde. Il faut être véritablement professionnel. Ce qui fait que le journaliste doit énormément faire attention, sans pour autant verser dans l'auto-censure. Non seulement pour éviter aux journalistes des représailles, mais aussi garantir aussi la sécurité des personnes interviewées. Parce que très souvent, les journalistes ils travaillent avec des sources. Il n'y a pas de journalisme sans sources. Si on doit aussi protéger nos sources, il faut aussi veiller à ça pour ne pas citer des noms qui peuvent, peut-être des personnes qui peuvent avoir des problèmes. En fait, très souvent, ce n'est même pas à la personne, à la source, de demander de la protéger. On se souvient d'une chaîne qui est aujourd'hui bannie au Mali, a fait une interview d'un vieux, je cite la localité, Lelehoy. Et pratiquement 24 heures après, le vieux a été abattu par des groupes armés en représailles à ce que le vieux a dit dans l'interview. Peut-être si ces médias avaient pris des dispositions pour peut-être protéger la source, soit brouiller sa voix ou même flouter son visage, on n'en serait pas arrivé là. Donc, c'est une grande responsabilité que de traiter une information, et surtout en temps de conflit, dans une zone d'insécurité également. Maintenant, pour le journaliste lui-même, on le sait, je ne vous l'apprends pas, on a l'habitude de le dire, le bon journaliste, c'est le journaliste vivant. Le journalisme en temps normal, et le journalisme en temps de conflit, les journalistes dans une zone de conflit.
Merci beaucoup Fatia Tara et à la semaine prochaine.
À présent, sortez les calepins, apprêtez les stylos, nous aurons des choses à noter ce soir. Accueillons l'invité culture.
L'invité culture.
Professeur titulaire des universités du Mali et celle du CAMES, Idrissa Soïba Traoré a été vice-recteur et recteur de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Il est l'auteur du livre « Enjeux du pilotage pédagogique au Mali, des mots à penser », celui dont nous parlons justement ce soir. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, professeur, pour commencer, pourquoi un tel ouvrage dans l'univers scientifique malien aujourd'hui?
Merci pour la question. Avant de répondre, je voudrais remercier Studio Tamani pour cette occasion qui m'est offerte pour parler de cet ouvrage. Et pour revenir à votre question très rapidement, l'écriture ou l'élaboration de cette œuvre a inspiré à travers trois motivations essentielles. La première motivation est tout à fait individuelle. Et je suis spécialiste des sciences de l'éducation, ancien chercheur, donc il est de mon devoir, un devoir sacerdotal, de publier et de faire comprendre en tout cas l'univers éducatif par le monde non seulement scolaire mais aussi par les acteurs de l'éducation. La deuxième motivation, elle est tout à fait sociale. Vous savez, l'école est une micro-société, c'est une institution qui se trouve dans la société. Et écrire sur une institution qui se trouve dans la société, c'est écrire sur la société. Je voudrais dire aussi que entre l'école et la société, il y a un lien dialectique. Ce lien dialectique, c'est quoi? C'est que chaque fois que l'école a des problèmes, cela se sent sur la société. Et inversement. Un grand penseur français du nom de Michel Develet dit ceci: quand la société s'enrhume, l'école tousse, pour montrer ce lien dialectique. Et la dernière motivation qui pourrait regrouper les deux, elle est scientifique. Je dois dire sur ce plan-là que, en tant qu'acteur de l'école, en tant qu'enseignant-chercheur, il est encore de mon devoir d'écrire, d'apporter cette fois-ci ma contribution à l'universel. Cette contribution à l'universel, c'est tout simplement une contribution à la science qui permet à mes collègues, qui permet également au monde scientifique de comprendre en réalité ce qui se passe au niveau des écoles dans le contexte, n'est-ce pas, malien. C'est parce qu'on parle des difficultés de l'école et des problèmes de l'école qu'on pourrait trouver également des solutions.
C'est bien noté. Alors, le titre de l'ouvrage est assez évoqué. Interpellateur. Pourquoi un tel choix, professeur Traoré?
Ok, bon, une excellente question, hein, parce que j'ai été souvent interpellé par rapport à ce titre. Donc, je dis enjeu du pilotage pédagogique au Mali, des mots à penser. M-A-U-X. Des mots. Et penser, P-A-N-S-E-R. Donc, les mots à penser ne sont pas des mots à penser. Il faut qu'on comprenne un tout petit peu ce jeu d'expression, ce jeu de mots. Parce qu'on doit dire que ce ne sont pas des simples expressions qui sont là pour enrichir le champ lexical. Okay. Mais quand on parle de mots à penser, il s'agit des difficultés qui minent l'école. Dès lors qu'on arrive à faire une radioscopie de ces difficultés, donc maintenant, il faut proposer, n'est-ce pas, des solutions. Et les solutions, c'est un tout petit peu les pansements.
Exactement, professeur. Alors, l'ouvrage est composé essentiellement de trois parties. Brièvement, ce sont lesquelles?
Merci beaucoup. Ces trois parties essentielles. Dans la première partie, je parle de pilotage, surtout en zone rurale. Et la deuxième partie porte sur l'approche par compétence. Je me pose la question, l'approche par compétence, est-ce que c'est une stratégie de régulation pédagogique ou bien tout simplement, on l'utilise comme, j'allais dire, une méthode de bricolage. Donc là, j'interroge l'approche par compétence dans un lycée de Bamako que j'ai appelé le lycée Bara. En troisième partie, bon, il n'est pas bon simplement de faire ressortir les faiblesses. Il est essentiel aussi d'insister un tout petit peu sur les petites solutions que nous pouvons proposer et qui sont souvent des solutions même proposées par des enseignants auxquels on a ajouté en tout cas ce que nous pensions et qui pourraient servir bien entendu aux décideurs en matière d'éducation.
Un mauvais enseignant ne peut pas former de bons élèves. Ces propos sont les vôtres à la page 96 de ce livre en faisant allusion aux ressources humaines de l'éducation au Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique, professeur?
Bon, en parlant de cela, bon, souvent j'ai été interpellé par rapport à ces questions. Mais en fait, c'est une évidence. Mais je voudrais dire d'abord que l'enseignant est l'épine dorsale de l'action d'éducation et de formation. C'est extrêmement, n'est-ce pas, important. Sans enseignant, il n'y a pas de formation digne de nom. Mais au Mali et dans les zones rurales, ce que nous constatons, en tout cas, est cauchemardesque. Pour la simple raison que ce sont des enseignants, en réalité, qui n'ont aucun profil académique, qui sont recrutés et qui doivent dispenser des cours. Mais tenez-vous bien, hein, nous allons revenir peut-être sur ça, dans un système de double division, c'est-à-dire une classe dans laquelle se trouvent deux cohortes, c'est-à-dire deux groupes.
C'est la prochaine question d'ailleurs.
Voilà, deux groupes, deux groupes, n'est-ce pas, d'élèves qui sont de niveaux différents. Donc, l'ancien les encadre. Donc, alors qu'il n'a pas l'outil pédagogique nécessaire, c'est un goulot d'étranglement, comme le dit Franz Fanon. Et finalement, ça devient, n'est-ce pas, du bric-à-brac. Les enfants n'apprennent absolument rien. Mais le hic dans ça aussi, et c'est un conseil que je donne au directeur d'école. Souvent, quand le nouvel enseignant arrive, on lui donne, n'est-ce pas, la première année. On dit non, bon, il va se débrouiller en première année. Ça, c'est un danger imminent. Est-ce que vous voyez ? C'est l'enseignant le plus performant, l'enseignant qui a le profil de formation, l'enseignant qui est le référent, j'allais dire, psychologique, qui doit être mis en première année. Parce qu'il appartient à ce dernier de créer le soubassement. Ouais. Quand il fait un soubassement qui est tout à fait solide, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on peut mettre des édifices, on peut mettre, n'est-ce pas, des étages.
Parce que c'est une découverte voilà. Pour les tout-petits.
Oui, c'est ça. Mais ouais. Dès lors que c'est un enseignant qui n'est pas de qualité, il pourrait mettre des bambous en soubassement.
Absolument.
Et sur les bambous, qu'est-ce qu'on va construire, n'est-ce pas, comme étage ?
Rien de bien solide, oui. En tout cas.
D'accord. Professeur, vous dites également que dans certaines localités, les enseignants font face à des effectifs pléthoriques, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, des classes souvent combinées. Certains sont seuls à dispenser toutes les disciplines de leur domaine de prédilection, d'autres plus se préoccupés à arrondir les fins de mois que par les objectifs pédagogiques. Et la liste n'est pas exhaustive. Comment cela est-il possible ?
Ce n'est pas un constat, hein. C'est un vécu quotidien. Et il est bon que les enseignants que nous sommes, nous fassions une autocritique. Effectivement, les enseignants sont en face, n'est-ce pas, des effectifs pléthoriques. Souvent, vous rentrez dans des classes de plus de 120 élèves. Souvent, ça va jusqu'à 140 personnes. Voilà, moi, dans mes observations, je suis tombé, n'est-ce pas, sur des classes pareilles. On se pose la question, comment l'enseignant peut encadrer, n'est-ce pas, tout ceci ? Il y a des problèmes de circulation dans la classe. Il y a même des problèmes d'évaluation qui est un problème très important.
Juste pour constater l'écart, l'effectif idéal, c'est combien d'élèves par classe ?
Bon, normalement, on ne doit pas aller au-delà de 50.
Parfait.
On ne doit pas aller au-delà de 50. Mais si on veut avoir un truc performant, je pense que l'UNESCO conseille de ne pas dépasser, n'est-ce pas, 30. Parce que c'est extrêmement, n'est-ce pas, important.
Allez-y.
Bon, comme nous avons des difficultés, on peut aller jusqu'à 50. Donc l'effectif pléthorique est un problème. L'enseignant, dans ce cas de figure, tombe dans ce que j'appelle une hyperactivité. C'est quoi ? C'est que, voilà, souvent, face à ces effectifs, il peut constituer deux groupes. C'est ça qu'on appelle le système de double vacation. Voilà, il y a un groupe qui vient le matin et un autre groupe qui vient le soir. Mais dans les constats que j'ai eu à faire, chaque fois que le groupe qui vient le soir, c'est un groupe pléthorique. Le groupe qui vient le matin, c'est aussi un groupe pléthorique. Donc l'enseignant, en réalité, tombe dans une fatigue extrême. Donc il pourrait pas, dans beaucoup de cas de figure, faire même, n'est-ce pas, ses préparations.
Et la double division.
Il y a la double division aussi. J'allais faire allusion tout de suite à ça. C'est un goulot d'étranglement, je reviens, n'est-ce pas, à l'expression. Vous savez ce que ça signifie ? Donc, c'est deux cohortes dans une même classe. Donc, la première année, la deuxième année, par exemple. L'enseignant vient, il donne le cours, il divise la classe en deux rangées, il donne le cours en première année, pendant que l'autre rangée, les gens sont en train de se taire là-bas. Bon, certains font du bruit. Voilà, ensuite, il revient. Quand il fait 30 minutes là-bas, dans la première année, il donne des exercices. C'est dans la même salle. Hein. Et ensuite, il va en deuxième année. Donc, il continue, n'est-ce pas, l'enseignement. Le problème, n'est-ce pas, dans ça, c'est que, bon, l'heure est divisée en deux, quand bien même que, en réalité, l'enseignant se trouve, n'est-ce pas, dans la même classe. Bon, il y a un problème aussi que vous avez souligné, c'est la question de la gestion, n'est-ce pas, des enseignants sur ce plan-là. Nous avons constaté ceci, qu'il est fondamental que les autorités trouvent des solutions à ces questions-là. Chaque fois qu'on est dans une zone urbaine, vous allez trouver qu'il n'y a généralement pas de problème. C'est 6 classes en fondamental 1, avec 6 enseignants, plus un directeur d'école. Mais quand vous venez en milieu rural, dans certaines zones, je ne vais pas donner de nom, à 15 km seulement, vous allez trouver que, bon, voilà, le village qui est là-bas, la commune qui est là-bas, a des écoles dans lesquelles nous avons 3 classes. Pourtant, c'est 6 cours. Pourtant, c'est 6 cours. Donc, chaque enseignant, il y a 3 enseignants, chaque enseignant prend une classe. Un enseignant prend la première et la deuxième année, un autre la deuxième et la troisième et la quatrième année, et un autre la cinquième et la sixième année.
Pendant vous allez trouver que, par ailleurs, dans certains endroits, un surplus d'enseignants.
Absolument, c'est ça. Il y a un sureffectif d'enseignants dans certains endroits, parce que vous allez trouver qu'en milieu, ça c'est généralement en milieu urbain, vous allez trouver que, bon, dans une seule classe, pour une classe de sixième année, il y a 2 enseignants. Il y a un qui travaille de 8h à 10h et un autre de 10h à midi. Donc, ils font, n'est-ce pas, ce système d'alternance. Donc, il va falloir qu'on gère véritablement, n'est-ce pas, le personnel.
Alors, merci, professeur Idrissa Soïba Traoré, pour ces premières réponses. Nous allons marquer une petite pause, Lala.
Oui, Adama, et nous allons écouter cette fois-ci Adja Soumanou et elle chante Kokabere.
Kokabere, jiri mo
Adja Soumano dans Kokabere, une chanson sortie en 2004. Et nous continuons avec la série de questions-réponses avec l'invité du jour, qui, je rappelle, est professeur Idrissa Souiba Traoré, écrivain. Et si nous parlions à présent de l'APC, c'est quoi l'APC concrètement?
L'APC, en termes de définition, c'est l'approche par compétence. Il s'agit d'une stratégie pédagogique qui est prise en compte dans beaucoup de nos établissements. En tout cas, c'est une stratégie pédagogique sur laquelle le Mali marche, surtout au niveau des lycées. Je dois dire que l'APC fait partie des méthodes actives d'enseignement. Donc, à ce titre, elle a une importance capitale. Dans l'APC, l'apprenant devient central et l'enseignant devient tout simplement un facilitateur. C'est-à-dire que l'apprenant, il est le métronome dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation. L'enseignant l'invite à aller chercher, n'est-ce pas, des connaissances. Maintenant, quand il vient avec ces connaissances-là, il les expose. Donc, l'enseignant, vous me permettez l'expression, peut arranger, n'est-ce pas, ces connaissances-là. De toute façon, dans cette approche, qu'est-ce qui se passe? Cette approche condamne la passivité de l'apprenant. Voilà. Il doit être au centre du processus d'apprentissage. Il y a une certaine horizontalité, comme je le dis dans le livre. Il est au même niveau, n'est-ce pas, que l'enseignant.
Justement, l'APC, vous y avez consacré tout un chapitre dans ce livre.
Absolument.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce système est adapté à nos réalités? Est-ce que nous avons fait le bon choix?
Bon, de toutes les façons, je fais un premier constat, c'est qu'il y a des difficultés. Les difficultés, c'est que, par exemple, on n'est pas arrivé à former tous les enseignants dans le cadre, n'est-ce pas, de l'appropriation de l'approche. Mm-hmm. Ça, c'est une première difficulté. Une autre difficulté, l'APC nécessite aussi souvent du matériel. Mm-hmm. Et ce matériel, n'est-ce pas, se trouve absent dans les établissements. Mm-hmm. Je m'en excuse, l'établissement dans lequel j'ai enquêté, souvent, il n'y a même pas de photocopie. L'établissement n'a pas la possibilité de faire de photocopie pour les textes, n'est-ce pas, de littérature. Mm-hmm. Donc, ça peut poser énormément, n'est-ce pas, de problèmes. Mais, au-delà, nonobstant tout cela, je pense que, en tant que stratégie, si l'APC est bien utilisée dans le cadre, n'est-ce pas, de notre système éducatif, on peut absolument s'en sortir. Moi, je suis de ceux qui sont aussi optimistes, en tout cas par rapport à l'application des méthodes. Et je dis avec beaucoup de précision que si nous évaluons, chaque fois que nous évaluons et que nous arrivons à découvrir les difficultés et qu'on agisse sur les difficultés, on peut vraiment aller, n'est-ce pas, de l'avant. Vous voyez, quand on met deux classes ensemble, j'allais dire deux groupes dans une même classe, et qu'on enseigne pendant 9 mois, logiquement, si on fait le calcul, on n'a fait que 4 mois et demi.
Oui.
Voilà. Donc, ce qui fait que, bon, dans le livre, je le dis, les gens se trouvent au bord du second cycle, ils arrivent au fondamental 2, comme on le dit, pendant que normalement, ils doivent être, n'est-ce pas, en quatrième année. Il y a le matériel didactique aussi, les équerres, les règles, les compas, souvent, ces outils-là sont absents. Il y a aussi les livres. L'établissement doit avoir aussi ses livres. Je m'en excuse, hein, c'est fait il y a très longtemps, mais nous, quand on avait des séances de lecture, on était 2 pour un livre. Donc, on arrivait, n'est-ce pas, à lire. Donc, on ne trouve pas ces conditions-là aujourd'hui. Je ne dis pas que ces conditions-là sont forcément meilleures, mais quand on doit faire certains travaux, il est extrêmement important que le matériel didactique, n'est-ce pas, soit là.
Assez déplorable. Voilà. Parlons à présent des recommandations que vous faites dans cet ouvrage. Quelles sont aujourd'hui les mesures à prendre pour faire face aux difficultés liées au pilotage pédagogique au Mali?
Bon, merci pour la question. En tout cas, beaucoup de mesures. Hein. On vient de parler de la question des infrastructures, donc elle est une question capitale. Il faut des infrastructures dignes de nom. C'est extrêmement, n'est-ce pas, important. Et quand on parle d'infrastructures, ce n'est pas simplement les classes. La loi d'orientation de l'éducation définit très bien ce que signifie, n'est-ce pas, une école. Et c'est cette définition-là qui doit être appliquée à toutes les écoles. Il faut des classes, il faut des toilettes, il faut des aires de jeu, il faut également, n'est-ce pas, une bibliothèque. Dans certains établissements, il n'y a même pas de direction. Mais il faut surtout des enseignants. Même quand on n'a pas d'infrastructure, si nous avons des enseignants qualifiés, la question peut être, n'est-ce pas, résolue. Il faut qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, les profils de formation. Souvent, on organise des formations pour les enseignants, mais pour quel enseignant? Quelqu'un qui n'a pas les B.A.B.A., c'est-à-dire les principes de base dans le cadre de l'enseignement, même si vous amenez des méthodes sophistiquées, même s'il est élevé à des méthodes sophistiquées, il ne peut pas bouger. Dans les zones rurales, nous sommes en face des gens qui sont souvent dans la précarité.
Absolument.
Il faut que ceci, n'est-ce pas, soit aidé, qu'on puisse, n'est-ce pas, leur apporter les kits nécessaires. C'est vrai que certaines ONG et même l'UNICEF, je ne fais pas de publicité, hein, je ne connais pas l'UNICEF, mais je sais que l'UNICEF fait beaucoup comme d'autres organisations, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Mais une des propositions phares que j'arrive à faire dans le livre, c'est la solidarité agissante autour de l'école. Elle peut se fonder sur 2 principes essentiels. Le premier principe, c'est l'agir des anciens des écoles. Que ceux-ci peuvent agir dans le cadre d'une opération que j'ai appelée « Sauvons notre établissement ». Chaque année, donc, ils viennent. J'ai fait l'école du quartier Mali, donc chaque année, avec mes camarades, nous pouvons faire des petites contributions pour l'école. Et ces contributions-là vont servir à prendre en charge, par exemple, les élèves démunis, à intervenir dans le cadre aussi de certains problèmes. Voilà, comme, l'absence de chiffon, l'absence de rideau, souvent des seaux d'eau, etc., etc. On peut aller jusqu'à faire un grand investissement qui peut nous amener à construire même, n'est-ce pas, des établissements. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est vraiment l'intervention des mécènes. Les mécènes, ce sont des gens qui ont souvent, n'est-ce pas, les moyens. Voilà. Moi, j'invite ces gens-là à intervenir, n'est-ce pas, dans les établissements. Mais je pense qu'il faut peut-être formaliser leur agir en leur permettant, par exemple, de faire un grand investissement à tel point qu'ils peuvent même construire des classes. Moi, je propose que chaque fois qu'un mécène arrive à construire une classe, qu'on mette son nom sur la classe. C'est en ce moment que, voilà, l'apport de la communauté pour l'enseignement peut avoir, n'est-ce pas, tout son sens. Cette intervention des mécènes, j'ai appelé ça « j'apporte ma pierre à l'édification de mon pays ».
Bien noté, professeur Traoré. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je précise que vous êtes chevalier de l'Ordre national et de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES. Ce fut un plaisir de vous recevoir, mais vous restez avec nous car l'émission n'est pas encore finie.
Oui, l'émission n'est pas finie et il est tout simplement l'heure des infosports.
Bonsoir Khalifa, nous sommes ravis de t'accueillir dans ce studio. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine?
Bonsoir Lala, bonsoir à vous tous. La Direction nationale des sports et de l'éducation physique a réclamé la résiliation du contrat du sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit. Elle l'a fait savoir dans une lettre adressée au président de la Fédération malienne de football en date du 13 janvier 2026. Signée par le directeur national des sports, le courrier est clair, Tom Saint-Fit n'a pas pu atteindre les 4 objectifs majeurs assignés. Le technicien belge devait une qualification du Mali à la CAN 2025, atteindre au minimum la finale de la compétition, qualifier l'équipe nationale à la prochaine Coupe du Monde et jouer au moins les 16e de finale du Mondial. C'est une affaire à suivre quand on sait que le comité exécutif de la Fédération malienne de football n'est plus. Le stade malien de Bamako connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique. En effet, les Blancs de Bamako affronteront les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns FC pour une place dans le dernier carré de la compétition. Le tirage au sort a été fait le mardi en Égypte. Premier de son groupe avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls, une défaite, le stade a réalisé un parcours solide pour s'offrir une qualification historique lors de la phase de groupe. Mais attention, le club sud-africain est un habitué de cette compétition. Il a été champion en 2016 et 2 fois finaliste en 2025 et 2001. Comme pour dire que c'est une équipe qui représente un défi de taille pour les stadistes. Les matchs allés sont prévus les 13 et 14 mars alors que les rencontres retour auront lieu les 20 et 21 mars. Toujours en football, sur le plan national, 2 matchs en retard de la 10e journée du championnat national se sont joués cette semaine. C'est jeudi, le stade malien de Bamako a battu l'USFAS 1-0. Le Djouliba AC s'était également imposé sur la plus petite des marges face au Binga FC 0-1 le mercredi au stade Mamadou Konaté. Il faut noter que c'est l'ancien international malien Mamadou Sidibé Dimaha qui a assuré l'intérim sur le banc des Rouges de Bamako ce jour. Pour cause, l'entraîneur Boudo Mouri a annoncé la fin de sa collaboration avec le Djouliba AC il y a quelques jours lors d'une conférence de presse. Après ce départ du technicien ivoirien, l'on attend impatiemment du côté de Erema Kono pour découvrir le nom du nouvel entraîneur titulaire. C'est l'essentiel des informations d'aujourd'hui, Lala Touré.
Merci beaucoup Khalifa pour toutes ces infos sportives et pour te souhaiter bon week-end comme à l'accoutumée. Nous t'accompagnons avec On veut la paix de Amadou et Mariam.
Mali we chumi ne jole mianga mali.
chanté ici par le couple emblématique Amadou et Mariam. Un morceau sorti en 2013. Rappelons que Feu Amadou a laissé Mariam toute seule à la main.
Et oui, Lala, que son âme repose en paix. Et à présent, la revue de la presse en langue nationale, Bamananka.
La revue de la presse.
Khalifa Goïta Inoula, Ambarakanyoro Nkoumana Mune Kankatiani Ndorokouina.
Lala Touré Inoula, Kunafon Gafé Okumana Mikan Kosebe Oye, Femunumbe Bo Malila, Oulu Donina Bala, Kosebe, Sebendo Konana, Mimbena Juma Doman, Fevre Kalot Letan Saba, Soroko Ministri, Noye Alusen Sanwe, Ayanini Achakenyon Ofe, Konyine, Chakeda Bekanki Jija, Kamilion Keme Bonyongo Do, Ofeon Santala, Ola Kunafon Digafe Mewele Républicain, Alefana Signa Okanka Irakafo, Kosoro Ministri Soba Yini, Chakeda Ofe, Mie Million Keme, Oko Wartaka Nyeshin, Femunumbe Glam Malila, Ulu sani kola aniko betalike biro konomino ulu sanina ko bekanga san malidon fe ko dronte mi fana be sene malila o fana sani o kado bala inafote iridon ji foka se boisson ma wako jate mine kele ne do kenya ko minon sanina info matin ale konko kuni wagatie femunu be bo malila malidon yiraka ulu san aba yiraka fo ko akna mitara soroko ministri sofe ko bora sigika fo bala mikera jamana don fe wala sa chakeda fitininu ka ulu deme Malikono. Indépendant le coco milliard chama de Benado, Femunumbegla Malila, Ulu San Nicola, San 2026 la. Wako Soroko ministre Ayrakafo, Koni Dabora, Jamana Nyamo, Uluka Atnanima la Walialila, Malidon Besekake, Uirefe Chugamina, Jamana Don Ireka Fen Santala, Koni Kumani Tumfora Mena, Nobeka Kesisan, Koni Folikakan. Niakla infe, gouvernement Befeka, Jamanaka Soroko, Ka Oiriwa, Chakeda Kabara Senfe, Okerasi d'information Malweb, Wakumai.
Ini chaika ni kunafoni ajele nununa ambe kambe da nyogonye ni ala manga jonya jwana doko kumwere. Aywa ini chaika ni kunafoni ajele nununa ambe kambe da nyogonye ni ala manga jonya jwana doko kumwere. Et Adamo, nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons dire merci, grand merci à vous, professeur Idrissa Soïba Traoré, d'avoir éclairé notre lanterne tout au long de cette émission. Mais une toute dernière question, que représente l'enseignement pour vous?
Merci pour la question. Hein. Bon, grande chose, si vous voulez, pour répondre très simplement, c'est la charpente du développement d'une nation. Tous les secteurs de développement, en réalité, riment, si vous voulez, avec l'enseignement. On n'a qu'à prendre un secteur vital dans notre pays qui est l'agriculture. Nous voulons innover dans le domaine de l'agriculture. Nous voulons augmenter les superficies cultivables, nous voulons augmenter la productivité, il faut poser la question à l'école. L'école donnera des ingénieurs. Aujourd'hui, il y a un domaine dans lequel le Mali est en train d'exceller, c'est le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. À telle enseigne qu'on a créé, n'est-ce pas, un centre d'intelligence artificielle et de la robotique qui est dirigé par une collègue, Madame Jacqueline Kounaté. Mm-hmm. Voilà, bon, que je salue, n'est-ce pas, de passage. Vous voyez, les enfants ont fait des progrès énormes sur le plan international. Malgré tout ce que nous disons, en tout cas, comme critique par rapport, n'est-ce pas, à notre enseignement. C'est pour dire simplement que le pays ne peut pas bouger, ne peut pas aller de l'avant, en tout cas, sans enseignement, sans éducation scolaire, sans éducation universitaire. Cela a été saisi depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, par des penseurs qui ont montré que l'école est vitale dans le processus de développement d'une nation. Condorcet, à ce titre, dit que les nations qui ont les meilleures écoles sont les premières nations au monde. Et il ajoute, si elles ne le sont pas aujourd'hui, elles le seront demain. Comme pour montrer que dès lors qu'un pays fait un grand investissement dans le domaine, n'est-ce pas, de l'enseignement, cet investissement-là aura tout son sens et dans un avenir, n'est-ce pas, très proche. Le sage africain aussi, Joseph Kizerbo, a beaucoup insisté, n'est-ce pas, sur ça en disant que l'éducation, c'est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Si nous voulons planifier notre processus de développement, si nous voulons avancer, n'est-ce pas, plus loin, il faut qu'on arrive à investir, n'est-ce pas, en matière d'éducation. C'est pour cette raison que moi, j'ai un vibrant appel à l'endroit, n'est-ce pas, des autorités. Je pense que l'éducation doit être considérée comme une question d'urgence aujourd'hui. Autant on a décrété l'urgence sécuritaire, autant on doit décréter l'urgence éducative. En investissant dans l'éducation, on n'aura jamais, n'est-ce pas, de regrets.
Une chose qui est bien notée, lieu de vente du livre, également le prix.
Bon, le livre se trouve à Harmattan, Mali, à l'immeuble Jean-Marie Cissé. Voilà, donc le livre se vend à 12 000 francs. 12 000 francs.
Ouais. Prix assez accessible. Hein. Mm-hmm. Merci une fois de plus, professeur, d'avoir effectué les déplacements.
Merci
On retient du livre « Enjeux du pilotage pédagogique au Mali, des mots à penser » qu'il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école, vous l'avez dit
Absolument.
Tout au long de votre intervention. Il faut créer les conditions pour les réussites scolaires. C'est un appel à l'action pour les parents, les enseignants et les autorités. Merci à vous, fidèles auditeurs, d'avoir prêté oreille attentive à la présentation. Il y avait Lala Diarra Touré et Adama Amadou Haïdara. Mamadou Ouattara était à la technique, coordination Sekou Gadjigo. Prenez soin de vous et des autres et à très vite pour un autre numéro du Club de Tamani.